Les jardinières.
Bonjour à tous, bienvenue chez Les Jardinières. Et comme chaque samedi jusqu'à 8h, on parle jardin, pelouse, alentour, plantes d'extérieur, d'intérieur. Et on le fait en compagnie d'un professionnel. Nous tenterons au mieux de pallier à tous les soucis que vous rencontrez dans votre jardin, sur votre terrasse ou encore votre balcon. Ce matin, Sarah se fera une joie de prendre vos appels et relever les SMS que vous nous enverrez. Sarah, bonjour.
Bonjour Sandra et bonjour à tous.
Alors certains passent des après-midi, voire des journées entières à jardiner parce qu'ils ont le tant l'envie, l'énergie et la santé, alors que d'autres se contentent de petits instants. Quoi qu'il en soit, la satisfaction reste la même. Alors pour que jardiner continue de rimer avec plaisir, ce matin, nous écouterons les conseils avisés de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves, qui tentera de répondre au mieux à toutes vos questions. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bienvenue.
Merci à vous.
Avant de répondre à quelques mains vertes qui nous ont envoyé des messages cette semaine, Sarah, rappelez-nous, comment doit-on faire si on a des questions?
C'est très simple. Sandra, comme chaque samedi jusqu'à 7h50, tout le monde peut poser des questions en direct en téléphonant au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et les plus gênés pourront choisir d'envoyer un SMS en tapant jardin, un espace, suivi de votre question et envoyer le tout au 939. Il existe également le formulaire internet que vous trouverez sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Belle matinée et bienvenue chez les jardinières.
Les jardinières.
Les saints de glace sont passés, les dictons concernant ce passage de l'année sont nombreux. Il en est un qui dit « Attention, le premier des saints de glace, souvent tu en gardes la trace ». Est-ce que c'est vrai Jean-Pierre? Est-ce que les saints de glace, si on ne fait rien en amont, ont des conséquences sur nos jardins, nos espaces verts et nos vergers?
Eh bien non, cette année on a eu la chance d'avoir une période pluvieuse sur les saints de glace. Mais par le fait que le temps était couvert, on n'a pas eu ce froid méchant qui peut venir causer beaucoup de dégâts sur les potagers, les plantes extérieures, celles qu'on aura déjà sorties un peu précoces au niveau de terrasse, comme bananier ou ces plantes un peu sensibles. Donc non, cette année on n'aura pas de dégâts par rapport à ces saints de glace. D'ailleurs on le voit, hein, au niveau des fruits, on a une quantité de mise à fruits sur damascine, pommier, cerisier. Les saints de glace sont passés, on n'a plus ces risques-là. Le retour de froid ne peut plus être possible, donc préparez vos tonneaux.
La semaine passée, à la dernière minute de l'émission, on a reçu une question par SMS concernant un palmier qui a déjà plusieurs années et que la personne a rempoté l'automne passé dans un pot plus grand et a été tout l'hiver sur sa terrasse couverte. Et cette année, ses feuilles sont sèches. Est-il fichu ou peut-il le récupérer?
Oh, bonne question. Il y a de fortes chances qu'il ait passablement souffert du sec durant l'hiver plutôt que du froid. S'il était dans un jardin d'hiver à peu près tempéré à -2, -3 et plus, et non moins donc, si elle l'a rempoté puis qu'elle n'a pas suivi au niveau d'arrosage, le palmier est quand même une plante qui supporte l'humidité durant l'hiver. Et puis si ses feuilles sont déjà sèches maintenant, si dans le centre du démarrage du palmier, il n'y a aucun signe de vert, je pense que le palmier, il a péri.
Et Régine de Delémont a planté, elle, des salades, alors des lolos et des pommées, dans des poches en géotextile suspendues, un peu comme un tissu de rangement. Elle voudrait savoir si ces salades pousseront correctement ou si, au contraire, le peu de place ne risque pas de les étouffer. Elle nous précise que les poches ont environ 20 cm de large sur 15 cm de profondeur.
Non, alors elle veut se développer correctement. Il faudra peut-être juste un peu suivre au niveau de l'arrosage avec un engrais liquide pour amener de l'élément nutritif à l'arrosage. Ce qu'on ne sait pas, c'est au niveau du substrat qu'elle a utilisé, si c'était déjà un substrat qui était gorgé d'engrais ou qu'elle a fait une adjonction d'engrais, un engrais de longue durée. Il n'y aura pas de souci. Si elle aura mis un engrais qui est très rapide à la dissolution, eh bien les salades vont pousser très très vite au démarrage et puis se stabiliser dans la pousse derrière. Il faut quand même mettre un peu d'engrais liquide, je dirais, à l'arrosage et puis au niveau de la poche, ça va supporter. Il faut juste qu'elle sache que la poche de géotextile qui est pendue va s'assécher nettement plus rapidement que si c'était dans une surface de sol. Et puis là, l'arrosage devra être nettement plus conséquent par le fait justement de cette perte d'humidité.
Ok, merci beaucoup. Et si comme Régine, vous voulez envoyer votre SMS ou envoyer votre question par formulaire, n'hésitez pas, alors lors de vos envois, d'être très précis, on se rend mieux compte de tous vos soucis.
On parlait de salade et d'engrais. Est-ce que pour les autres légumes, c'est le moment de mettre de l'engrais aussi ?
Oui, alors en général, dans les potagers, quand on prépare la plate-bande au printemps, soit on fait une adjonction de terreau enrichi avec un fumier bien décomposé, soit on peut mettre un super compost qu'on trouve ici dans la région, dans les très très grandes places de compost. Hein. Il faut savoir que plus les places de compost sont conséquentes, plus les tas sont conséquents, donc les températures de ces substrats partent en haute température et puis détruisent toutes ces semences, toutes ces racines qui pourraient nuire à votre futur potager. Donc, du compost est super bon, simplement, faut le prendre dans ses grandes places. Et puis, si vous n'avez pas cette possibilité d'y mettre ou du compost ou un terreau enrichi, alors un engrais de fond est peut-être nécessaire. Ça dépend toujours, après, de la qualité de votre terre. Si vous avez une super terre végétale, pas trop de soucis. Si vous êtes dans un nouveau bâti avec 50 coups de pelle mécanique autour de votre espace et puis que la terre a été mélangée trois fois puis que vous avez une terre de mauvaise qualité, là, il va être nécessaire de faire une adjonction justement de compost, de mulchi, de fumier. Enfin, il faut vraiment améliorer cette qualité de terre pour que vos potagers se développent à merveille. Il faut aussi savoir que le larronnage printanier, ça veut dire la bêche utilisée, il est nécessaire de le faire assez en profondeur pour que vous ayez par exemple des carottes ou des radis qui se développent en longueur. Parce que si vous travaillez seulement sur les 10 premiers centimètres, eh bien vos légumes que vous aurez semés vont avoir un peu de la peine à percer ces couches souterraines qui auraient été compactées par le temps.
Quand on a une terre de mauvaise qualité, il faut changer la terre ou c'est possible de l'améliorer avec des techniques ?
Non, alors on peut l'améliorer, évidemment. Je dirais que le meilleur des systèmes, ce serait avec un super fumier décomposé de l'automne passé que vous enfouissez au niveau du bêchage printanier. Je vous déconseille la tourbe parce qu'on sait que la tourbe est une substance qui est naturelle et plutôt en voie de disparition, puis il faut protéger ces tourbières, donc en tout cas pas de tourbe. Sinon, des sacs de terreau, hein, on trouve ça dans les grandes surfaces, des terreaux qui sont pas très très chers, qui découlent évidemment des places de compostage, des grandes stations de Suisse, et puis avec ces mulchis-là, ben, y a pas de souci, vous arrivez vraiment à récupérer votre terre.
On a une question de Rachel concernant son citronnier Kinoto. Alors, en fait, un citronnier Kinoto, c'est un mandarinier chinois. Elle vient de l'acheter. Est-ce qu'elle doit... Alors, elle a plusieurs questions, Rachel. Elle en a trois. La première, c'est est-ce qu'elle peut le mettre en plein soleil ?
Oui, alors, bonjour Rachel. En plein soleil, là maintenant, selon les conditions météorologiques qui vont nous arriver, si on est des grandes températures avec des expositions plein soleil, ce sera peut-être un petit peu dangereux parce qu'il n'aura pas été habitué à cette exposition. Et puis, ben, il est comme nous, il y a de fortes chances d'avoir un dégât de brûlure du soleil sur vos feuilles. Donc le mieux, c'est de le sortir gentiment sur l'espace mi-ombre au début, et puis après, vous pourrez le mettre plein soleil, plus de soucis. Mais il faut l'habituer sur un délai de 15 jours.
Alors, toujours concernant ce citronnier Kinoto, est-ce qu'il supporte les endroits venteux ?
Oui, si le pot est assez grand, si la masse du sol peut compenser la prise au vent de la partie aérienne, s'il ne se couche pas, donc tout simplement, pas de souci. Après, il ne faut juste pas qu'il se couche et puis que le pot se casse et puis qu'il y ait plein de problèmes au niveau du terreau qui se défait au niveau de la motte. Voilà.
Et est-ce que c'est vrai qu'il n'aime pas être dans des pots trop grands ?
Alors, dans les plantes en pot, on n'aime pas mettre des immenses pots par rapport à la plante. Il y a une relation qui est donnée, je dirais, par rapport au volume de la couronne et puis au niveau du pot. On aime bien avoir un peu de marge au niveau du pot, ça veut dire au moins la largeur des branchages supérieurs pour être tranquille. Après un certain temps, selon, par exemple, si on prend l'exemple d'un olivier qui peut être gigantesque, eh bien là, on va plutôt garder quand même des pots raisonnables et puis faire des adjonctions d'engrais pour maintenir ces plantes dans des pots raisonnables pour pouvoir les rentrer l'hiver. Mais dans le cas de ce citronnier, pas de souci, elle peut... Non, pas de problème.
Et elle voudrait encore savoir comment sait-on que les fruits sont prêts à être dégustés ?
Vous les dégustez.
Vous essayez, vous tenter.
Oui, si c'est amer.
Vous bon, lancez dans la vie, qu'ils ont
une forme. Oui, mais elle attend qu'il pousse, quoi. Puis,
oui, et puis qu'il change de couleur. Et puis à la maturité, on se rend compte, rien qu'au pressé du fruit, s'il est mûr ou s'il est très dur.
D'accord. En tout cas, merci pour elle, pour avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que Rachel sera satisfaite avec son citronnier Kinoto.
Concernant toujours les plantes un peu méditerranéennes, on a parlé de citronnier, d'olivier. J'ai une question concernant le figuier. J'ai un oncle qui voulait me donner un figuier, mais il vit en Italie. Moi, je vis en Suisse. Je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Est-ce qu'un figuier peut vivre en Suisse ?
Alors oui, il peut vivre en Suisse. Il y a des endroits plus propices que d'autres. Il n'aime pas du tout les froids hivernaux qu'on a par chez nous. Alors, je dirais que l'exemple, moi je suis à Joulot, sur Boncourt, à 360 mètres d'altitude, les figuiers peuvent passer. Sur Porrentruy, des endroits un peu exposés, pleins de bises, ils vont pas passer. La vallée de Delémont, j'imagine que dans des endroits un peu protégés, exposés, plein sud, ils vont passer. Après, pour avoir l'expérience sur Neuchâtel, pour être en formation là-bas 3 ans, on trouve facilement des figuiers sur les bords du lac, mais évidemment, le climat n'est pas aussi aride que chez nous.
Est-ce qu'il faut le rentrer, du coup, en hiver ?
C'est compliqué, parce que le figuier, c'est une plante qui se porte plutôt bien dans la pleine terre. Il peut venir quand même relativement très grand. Le pot n'est pas sa panacée pour lui, parce qu'il n'apprécie pas tellement de se trouver canalisé dans un volume restreint. Non, le mieux, c'est de trouver un espace chez vous qui est vraiment abrité, plein sud, où il n'y a pas de billes, surtout durant l'hiver. Et puis, il devrait pouvoir passer.
Merci Jean-Pierre Ribaud, on rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Vous pouvez poser toutes vos questions par téléphone au 0901 70 20 20, ou envoyer un SMS au 939. Vous tapez le mot jardin, un espace, puis votre question. Vous envoyez le tout au 939 donc, et il y a aussi le formulaire internet que vous trouvez sur notre site sous l'onglet émission, questions aux jardinières.
Bon, vous êtes toujours chez les jardinières, on attend toujours vos appels, et bien vous pouvez aussi envoyer via le formulaire qui se trouve sur internet et faire comme Marlène de Bienne. Marlène qui nous écrit parce qu'elle a des soucis avec ses géraniums. Elle a des gros vers blancs qui squatte chaque année ses bacs de géranium, Jean-Pierre. Elle aimerait savoir comment doit-elle faire pour les détruire. Alors, j'ai moi une question par rapport à celle de Marlène. D'abord, c'est quoi ces vers blancs qui squattent ces géraniums ?
Oui, bonjour Marlène. En fait, ces vers blancs, c'est simplement le vers du hanneton qui a été pondu l'année précédente dans le terreau que vous aviez mis en place au niveau des caissettes et de vos géraniums. Le hanneton raffole des substrats hyperorganiques. Ça veut dire qu'on le trouve relativement facilement dans les composts, dans les fumiers super décomposés. Il n'apprécie pas la température du fumier en décomposition, mais du moment que vous avez vraiment une grosse masse humifère, l'hanneton se raffole à venir pondre dedans. Ça veut dire que dans vos bacs, étant donné que vous avez un terreau, un substrat qui est plutôt léger, humifère, eh bien, ils sont venus pondre dedans. Comment faire pour s'en défaire ? Il y a des traitements qu'on peut faire par arrosage. Vous pouvez les faire tout de suite là début mai. Hein. On peut encore le faire maintenant. Si vous le faites pas, ils vont effectivement causer des dégâts sur les racines de vos plantes qui sont dans vos caissettes. Les plantes auront de la peine à se développer. Ou bien alors, ce que vous pouvez aussi faire, ce serait une lutte, on appelle ça mécanique, mais vous sortez, vous videz vos caissettes sans trop les faire la masse du terreau, parce que j'imagine que ça fait quelques années qu'ils sont déjà dans cette caissette, là, ces géraniums. Donc vous sortez la masse de ce terreau, et puis vous les enlevez simplement à la main, ils ne vont pas revenir. Ils ont obligatoirement été pondus l'automne passé, et puis c'est le cycle de l'hanneton qui se produit dans votre substrat.
Si on les laisse, qu'est-ce qui se produit pour la plante ?
Ben justement, elle va se nourrir de la racine de la plante qui est en développement. Comme maintenant on est en plein développement, puis que les racines elles se développent énormément, elles sont très très tendres, et puis l'hanneton raffole de ce repas-là, donc les insectes vont nanifier ces racines, et puis la plante va obligatoirement souffrir dans son développement.
Mais elles vont que sur les géraniums ? Enfin, ces vers blancs, ces vers hanneton ne vont que dans les géraniums ?
Oh non, malheureusement pas. Il y a des fois, on a des grosses attaques dans les pelouses. Hein. Il y en a une telle densité que quand vous marchez sur la pelouse, vous avez l'impression de marcher sur un petit matelas. Et puis, si vous vous accroupissez et que vous essayez d'arracher le gazon, vous arrivez carrément à le rouler parce qu'il n'est plus du tout alimenté par la racine. Et puis là, pareil, on a des traitements à l'arrosage, des insecticides qui font qu'on arrive à s'en défaire. Mais en général, quand on voit qu'il y a une attaque, l'attaque elle est déjà tellement conséquente que malgré l'intervention chimique, le dégât reste, et puis il faut intervenir au niveau des semis.
Merci Jean-Pierre.
Merci Jean-Pierre. Et de manière préventive, est-ce qu'on peut faire des choses?
Non, parce que l'hanneton, c'est un peu comme le mulot, c'est des cycles tous les 3 ans et puis ça revient à chaque fois. Alors après, il est assez particulier de se rendre compte que des années, c'est certaines communes qui sont touchées plus que d'autres. Pourquoi ça, je saurais vous dire. Mais comme il y a 2 ans, Courgenay, on avait énormément de pelouses qui étaient attaquées par ces vers blancs. J'espère que cette année ne sera pas que...
Merci Jean-Pierre, vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Pour nous appeler, c'est le 0901 70 20 20. Pour le SMS, c'est le 939. Vous tapez le mot jardin, un espace, puis votre question. Il y a aussi le formulaire internet sur notre site. Les jardiniers reviennent tout à l'heure après des infos routes et la météo.
7h, 8h. Les jardinières. Les jardinières.
Et les jardinières qui reviennent ce matin en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves, qui est là afin de répondre à toutes vos questions concernant l'aménagement extérieur, mais également intérieur de vos espaces verts. Bienvenue si vous nous rejoignez. Jusqu'à 8h, vous êtes donc chez les jardinières.
Et jusqu'à 7h50, vous pouvez nous contacter en posant vos questions au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez le faire par SMS également en indiquant le mot jardin, un espace, puis votre question. Et vous nous envoyez le tout au 939. Sur notre site, vous trouverez aussi un formulaire à remplir sous l'onglet émissions, questions aux jardinières. Si vous choisissez de nous écrire, n'hésitez pas à nous fournir un maximum de détails afin que notre professionnel du jardin, Jean-Pierre Ribaud, vous conseille au mieux. Et il y a Odile de Beuvet qui a lu un magazine, et dans ce magazine, elle a lu que peindre les troncs d'arbres avec de la peinture blanche fait repousser la vermine. Alors, est-ce que c'est vrai ?
Non, bien sûr que non. Bonjour Odile. En fait, c'est même pas de la peinture qui serait utilisée si vous voulez faire ce procédé sur les troncs de vos fruitiers. En général, c'est là-dessus que les gens se passionnent à le faire. On utilise de la chaux. Alors on dit que la chaux est un désinfectant. Effectivement, ce qui se trouve sur le tronc sera désinfecté au niveau de l'application de la chaux, mais uniquement à l'application. Une fois que la chaux aura séché et blanchi, vos troncs seront horriblement blancs. Et puis la désinfection, elle aura fait que le passage de l'application. Vous avez meilleur temps de ne pas faire cette application-là et puis de suivre un peu le développement des nouvelles pousses de l'année sur les fruitiers et les plantes que vous souhaitez contrôler. Et puis si vous avez des attaques qui sont conséquentes, à ce moment-là, intervenir avec un phyto. Mais la chaux ne repousse en tout cas pas les attaques de parasites ou de champignons. Et puis, il y a d'autres personnes qui peuvent aussi se dire, ils mettent des bandes collantes sur le tronc pour limiter les interventions des fourmis qui montent sur les troncs des fruitiers et autres. Alors, cette application, effectivement, elle peut bloquer la fourmi qui va monter dans le végétal, mais le problème, il n'est pas au niveau de la fourmi. Si vous avez des fourmis sur un végétal, c'est que vous avez une attaque de puceron. On sait que l'excrément du puceron est sucré, et puis la fourmi se raffole de cet excrément. Par le fait, elle déplace encore un peu les œufs des pucerons et puis vous avez une attaque plus conséquente. Donc, si vous avez des fourmis, ne mettez pas des bandes autocollantes sur vos troncs. Simplement une intervention avec un produit chimique ou un jus de savon noir ou d'ortie pour limiter le développement de ces puces et puis vous aurez réglé tous vos problèmes.
Et du côté du standard, nous avons un téléphone, je crois, Sarah.
Oui, c'est Denis Desrossi qui a préféré que je pose la question pour lui. Il a des pieds d'éléphant et il se demande quelles terres ont besoin ces pieds d'éléphant pour être rempotés.
Bonjour Denis. En fait, le terreau pour le pied d'éléphant, c'est plutôt un substrat qui est un peu sablonneux. C'est pas une plante qui apprécie les terres lourdes. Par exemple, comme le géranium, on sait que si vous mettez des géraniums que dans du terreau, ils vont pas se développer. Il faut absolument le mélanger avec une terre lourde de chez nous. Par contre, le pied d'éléphant, lui, il va vraiment préférer un terreau mélangé à du sable. Voilà, on peut pas dire mieux.
Est-ce que si on prend la mauvaise terre, ça peut vraiment nuire à la plante ?
Non, ça ne peut pas nuire à la plante, mais il faudra un peu la régénérer et puis surtout faire une adjonction d'engrais, soit sous forme de pastilles, de boulettes que vous trouvez dans le commerce, ou alors avec un engrais liquide que vous appliquerez à l'arrosage, une petite dose par semaine, ça dépend de la grandeur du végétal, ce qu'il peut absorber.
Ah ben, en parlant du pied d'éléphant, tiens, ça me fait penser que j'en ai un. J'ai joué à la coiffeuse, hein, j'ai tout coupé. Donc il n'y avait plus que le pied d'éléphant parce que j'avais des cochenilles dessus.
Oui.
Et puis sur vos conseils, j'ai sprayé un antiparasite, j'en ai mis partout bien comme il faut. Oui. Alors en effet, ça a bien repoussé.
Oui,
Mais c'est toujours mes cochenilles.
Oui, évidemment, parce que la cochenille, c'est un parasite qui est difficile à détruire. En fait, les produits chimiques que l'on rencontre dans le commerce, c'est sous forme d'huile qui viennent en application sur le parasite et puis qui le fait périr par étouffement. Et puis, il faut renouveler le produit, je dirais, tous les 10-15 jours sur 3 applications pour enlever tout ce qui était latent au niveau des œufs, au niveau des jeunes, au niveau des voyages. Voilà. Vous êtes obligé de revenir 2-3 fois pour les supprimer. Après, ce sont des plantes qui sont vraiment sujets à ça, d'autant plus si vous les avez encore à l'intérieur. La cochenille est une plante, un parasite un peu compliqué à se défaire.
C'est possible qu'elle aille sur la plante à côté? Ou la plante à côté est aussi infectée?
Oui, ça peut arriver, mais les cochenilles, on les voit, il y a les floconneuses qui sont toutes blanches, celles-là, elles sont vraiment faciles, ça fait comme de la ouate sur le tronc. Après, vous avez les diaspides, ça fait un petit bouclier sur le parasite, ça vous fait comme des petits boutons sur le végétal. Ceux-là, vous les voyez aussi facilement. C'est pas un parasite qui est difficile à observer, il est plutôt difficile à détruire, et puis c'est vraiment un produit du commerce spécialisé, je dirais, qui va faire que vous arriverez à vous en défaire.
Merci Jean-Pierre. On a un SMS, Sarah.
C'est Elisabeth de Basse-Cour qui nous écrit au 939. Est-ce que je peux planter des courges ou potirons dans des grands pots avec du terreau que les communes mettent à disposition?
Oui, bonjour Elisabeth. Que du terreau mis à disposition par les communes, c'est évidemment que des substrats issus du compost. Et puis, le problème de ces substrats, c'est que durant l'été, ils vont s'assécher très très facilement. Je dirais que vous pourriez mélanger ce substrat mis à disposition par les communes avec de la terre végétale, à raison de 1/3 compost, 2/3 terre végétale, et puis là, ça va fonctionner. Mais que dans du compost, je pense pas. D'autant plus qu'il y a encore un risque qu'ils repartent un peu en fermentation durant l'été, parce qu'on sait que les composts, ça reste une matière humifère, organique, qui est en constante décomposition. Et puis s'ils repartent en température, ils vont encore vous faire périr vos plantes. Donc non, 1/3 compost, 2/3 terre végétale, et puis là, vous devriez avoir un super résultat.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On se retrouve tout à l'heure. Les jardinières, ça continue. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Bah, forcément, il ne va pas partir là en courant. Et il répond donc à toutes vos questions ce matin. Et on vient d'avoir au téléphone Madame Julia de Bourignon, qui aimerait, elle, savoir comment on fait pour enlever les prêles qu'on a dans ses jardins. Alors, elle est envahie dans son jardin, envahie de prêles. Comment doit-elle faire pour s'en débarrasser?
Oui, bonjour madame. En fait, la prêle, c'est vrai que c'est une mauvaise herbe qui est très difficile à se défaire si vous n'utilisez pas le bon produit. Il est un super produit que vous trouverez dans les commerces locaux. Précisez bien que c'est de la prêle, et puis avec une petite intervention chimique, vous allez vous en défaire relativement facilement. Mais il n'y a qu'un produit connu, je ne peux pas vous citer le nom là, évidemment. Sinon, vous me lancez un coup de fil une fois, et puis moi, je peux vous renseigner différemment, voilà.
Voilà pour la réponse à cette question. Allez, madame Julia, comme dirait Jérôme, on l'embrasse si elle nous écoute. La suite, donc, avec un téléphone. Vous avez eu un téléphone, vous aussi, Sarah, non?
Oui, j'ai eu aussi un téléphone. C'était Yvonne de la Chaux-de-Fonds qui nous a posé cette question sur son bonsaï, parce qu'en fait, il va très bien, il est très beau, mais seulement elle a remarqué qu'il manque de terre et elle se demande quelle terre ajouter.
Bonjour Yvonne, quelle terre ajouter? Ça dépend un peu du bonsaï que vous avez. Je dirais plutôt une terre qui est un petit peu collante, que vous arriviez à réaménager la partie supérieure de votre pot, parce que le bonsaï, il est très joli avec un aménagement inférieur très joli. Donc il faut trouver une solution pour que votre terre puisse adhérer à la masse que vous avez déjà au niveau du pot. Et puis peut-être un ou deux petits cailloux, un ou deux petits galets, je sais pas, un peu de mousse. Oui, la déco du bas est autant importante que le bonsaï du dessus. Alors, trouvez une terre qui soit un peu adhérente à votre surface pour le réaménager, voilà.
Et comment ça se fait que la terre disparaît comme ça?
Oh, alors ça dépend, si elle le met dehors, par exemple, rien que le vent, la bise peut assécher un peu la surface de ce terreau, de cette terre, et puis le prend, ça, en poussière, ou bien alors un peu à l'arrosage. Je dirais que c'est les deux clauses possibles.
Eh bien, en parlant de terre, on enchaîne avec Alan qui lui a planté du basilic dans ses pots l'année passée. Il ne s'en est plus occupé cet hiver et il se demande si en arrosant simplement sa terre, le basilic va repousser ou s'il doit en replanter pour cette année.
Oui, bah bonjour Alain, vous êtes un petit coquin parce qu'en fait le basilic, c'est une plante qui est uniquement annuelle. Ça veut dire que les jardiniers l'ont déjà semé il y a un mois et demi dans les pots. Et puis là, maintenant, vous achetez vos plants, vous les plantez, puis à l'automne, de toute façon, elle va périr la plante. Alors ça, c'est cyclique, vous êtes obligé de racheter chaque année pour avoir de la basilic dans vos pots. Voilà.
Merci pour Alain.
Les autres plantes aromatiques, c'est aussi annuel ?
Non, il y a des vivaces. Non, il y a aussi des vivaces, il y a des bisannuelles. Non, il y a un peu de tout dans les vivaces. Non.
Et pour plus de détails, n'hésitez pas à appeler Jean-Pierre Ribaud, donc vous l'avez entendu. C'est pas cool. Hein.
C'est chou, ouais, c'est...
On attend encore vos SMS. Il vous reste encore quelques minutes, mais ce sera du rapide. Donc vos SMS, et vous pouvez nous appeler. On fait une piqûre de rappel, Sarah.
Bien sûr, c'est au téléphone qu'il faut composer, le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez le mot jardin, un espace, puis votre question et vous envoyez le tout au 939. Et par formulaire internet, c'est sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières.
On a encore une question de Josette. Josette, elle a un jardin potager et elle voudrait savoir si elle peut planter de la lavande à même le sol ou si elle a meilleur temps de la mettre en pot pour ne pas la mélanger avec ses légumes.
Oh non, elle peut la planter à même le sol, c'est pas une plante qui est envahissante, ce n'est pas comme la menthe. La menthe, c'est quelque chose qu'il faudrait planter dans un sol préparé, mais avec un pot ou un bout de tuyau pour éviter la propagation de la menthe dans le potager. Mais non, la lavande, aucun souci. Simplement, il faut savoir que pour entretenir les pieds de lavande, une fois la floraison terminée, il faut venir tailler cette lavande pour la tenir assez courte sur plante, parce que sinon, elle a tendance à s'allonger énormément, se coucher dans le temps, et puis elle devient très vilaine.
Donc la lavande, vous dites, elle vient...
Oui, si on la taille pas, elle vieillit très mal parce qu'elle s'allonge, elle s'ouvre. Et puis après, vous avez des éléments plutôt séchards qui sont visuels et puis elle perd toute sa valeur.
Est-ce que c'est possible que Josette vous ait posé cette question en rapport à l'odeur ? C'est quand même une odeur assez forte, non ?
Oui, non, mais les légumes ne vont pas prendre l'odeur de la lavande, pas de souci.
L'aubergine à la lavande, non, pas possible. Il y a Rebecca de la Chaux-de-Fonds également qui, elle, a planté de la rhubarbe. Et elle voudrait savoir quand cette dernière poussera. Alors, je pense que par rapport à sa question, c'est quand est-ce qu'elle pourra, donc, quand elle en aura. Oui. Est-ce qu'elle pourra la manger ?
La réceptionner, oui, bien sûr, parce que si elle ne pousse pas maintenant, c'est déjà trop tard. Le plant, il a péri. On peut les prendre, les rhubarbes, jusqu'à début mi-juin. Au-delà, elle devient trop dure. Maintenant, vous avez aussi les ombelles florales qui se développent. Alors, ces ombelles, il faut absolument les couper pour éviter un épuisement du pied. Et puis, ça va vous garantir des belles cannes pour l'année prochaine. On apprécie beaucoup la rhubarbe au printemps quand elle est tendre, jeune, parce qu'après, au-delà, elle est plutôt filamenteuse et puis beaucoup moins intéressante à la consommation.
Alors, on trouve de la rhubarbe, hein, on peut en acheter des longues branches assez larges, à la différence d'un jardin où elle est plus petite et plus fine.
Ah oui, mais ça, c'est tout l'art du jardinier qui aura en culture 500 plants de rhubarbe pour faire une production de rhubarbe. Lui, il va enrichir son sol avec beaucoup de matière organique. La rhubarbe, elle raffole des sols très profonds, humifères et frais. Par contre, chez vous, si vous avez le malheur d'avoir une terre qui est plutôt sécharde, lourde, marneuse, vous devez avoir un peu de rhubarbe, mais vous ne pourrez jamais obtenir les cannes que l'horticulteur spécialisé aura pu produire.
Ah ouais, mais en général, ceux qui ont une petite rhubarbe, ils en sont fiers parce qu'ils disent qu'elle est plus juteuse.
Oui, alors c'est vrai. Puis je dois aussi vous dire que si vous mettez de la rhubarbe dans un aménagement paysager, l'ombelle florale est quand même très jolie. Et puis la feuille n'est pas désagréable, il n'y a pas d'odeur particulière. Elle ne pose pas de problème au niveau de la colonisation, d'une répartition de ces plants. Donc oui, ça peut se faire. Moi, j'aime bien de temps en temps un plant de rhubarbe dans un aménagement, un angle, avec des ombelles florales. C'est chouette.
Ne serait-ce que pour faire... On peut utiliser la rhubarbe pour faire joli.
Que ça, tout à fait.
Sans faire de tarte.
Sans les tartes.
Ce serait dommage quand même, pour les gourmands.
J'insiste avec ma tarte. Mais... Alors, c'est bientôt la fin. Sarah, de votre côté, est-ce que vous avez encore des SMS ? Est-ce que vous avez encore des formulaires ?
Alors, le standard est pour l'instant vide, mais on peut se demander, Jean-Pierre Ribaud, si on a envie de jardiner ce 19 mai, quels travaux on peut faire qui sont de cette saison, de ce jour ?
Oh bien, vous avez toutes les plantations, des plantes annuelles, des annuelles, les plantes à fleurs. Vous avez dans les potagers tout ce qui est des repiquages, des plantons. Maintenant, bien sûr, après le sein de glace, hein, vous pouvez attaquer au niveau tomates, courgettes. Si vous voulez qu'elles se développent, d'autant mieux, couvrez-les encore un peu durant les nuits avec un bout de journal ou quelque chose comme ça pour les protéger peut-être du frais, mais au niveau des gelées, il n'y a plus de soucis. Oui, non, alors ça regorge de travaux là, en cette période au niveau potager, aménagement paysager. Il y a vraiment de quoi faire, c'est vraiment une super période.
Au niveau de la pelouse ?
Pelouse, bien sûr, tonte, scarification, on arrive gentiment sur les fins. Engrais obligatoire si vous voulez avoir une jolie pelouse. Traitement sélectif, évidemment, si vous êtes envahi par des mauvaises herbes. Et puis au niveau des semis, c'est encore la super période maintenant. Pour ceux qui ont déjà eu la chance de mettre en place des semis il y a 15 jours, avant ces périodes pluvieuses, eh bien, les semences sont en développement total. Hein, les pelouses se verdissent très très vite. Pour ceux qui ne les ont encore pas mis, profitez de le faire rapidement, parce qu'à partir du 25-28, ça va venir compliqué, étant donné que le mois de juin est plutôt chaud au niveau caniculaire. Et puis, ces semences qui sont en germant sur les périodes de 13-14 heures, un coup de soleil dessus risque de créer de grosses pertes. Et puis, de ne plus avoir une pelouse dense, ça veut dire que vous aurez une grosse attaque de mauvaises herbes dans votre nouvelle pelouse, ce qui est dommage. Voilà. Puis après, on sait aussi qu'avec arrosage, on arrive à compenser une partie, mais pas tout. D'autant plus, on a vraiment des grosses températures sur qu'une demi-heure. Même si vous avez arrosé le matin votre pelouse, eh bien, l'arrosage du matin va faire germer la semence. Et puis, 13-14 heures, le soleil va faire de la paille de votre semence. Donc, faites vos semis très très vite, parce qu'au-delà de je vous dis, début juin, il faut vraiment supprimer les semis pour reprendre après cette intervention à partir de mi-août et début septembre, selon météo.
Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir répondu à toutes les questions que nous avons eues ce matin. On le rappelle, hein, vous pouvez le faire toute la semaine, donc nous envoyer, alors pas téléphoner, ça c'est sûr, mais nous envoyer vos questions. Vous pouvez le faire via notre formulaire qui se trouve sur nos sites internet sous l'onglet émission, questions jardinières. Vous pouvez le faire également par SMS en envoyant jardin, espace, votre question, l'envoyer au 939 et nous la traiterons samedi prochain. Sarah, les jardinières reviennent la semaine prochaine. Ce sera Stéphanie qui sera donc à ma place. Elle reprendra sa place initiale. Merci Jean-Pierre d'être venu répondre à toutes les questions. Une excellente rentrée, un bon week-end. Et on salue la jeune pousse qui est venue avec vous, qui vous accompagne et qui s'appelle Soline.
Bonjour.
Belle journée, Soline.
Merci, pareil.
Jean-Pierre, le mot de la fin, il est pour vous.
Super gentil, merci à vous. Merci pour moi plus de m'avoir accompagné ce matin. Et puis, je voudrais juste faire un petit coucou à un super ami, là, Michel, qui me fait un débriefing café tous les matins, 5h30, 5h45. Grand merci.
Votre coach, vous tout avez un coach
vraiment,
personnel.
Vraiment, merci.
Une belle journée, les jardinières reviennent donc la semaine prochaine. Très belle journée, à très bientôt.
7h, 8h, les jardinières.